Chapitre 3. Retour à New York. Roland montre patte blanche. 1. Le matin du lundi 21 juin de l'année 1999, le soleil brillait sur New York, comme si Jack Chambers ne gisait pas mort dans un monde et Eddie Dean dans un autre. Comme si Stephen King ne gisait pas aux soins intensifs de l'hôpital de Lewiston, n'émergeant que par brefs intervalles dans la lumière de la conscience. Comme si Susanna Dean n'était pas assise, seule avec son chagrin, à bord d'un train filant sur des rails antédiluviens et aléatoires à travers les terres perdues de Tonnefoudre vers la ville fantôme de Félix. D'autres avaient choisi de l'accompagner dans ce voyage, du moins jusque-là, mais elle leur avait demandé de lui laisser de l'espace, et ils avaient honoré son souhait. Elle savait que pleurer la soulagerait, qu'elle se sentirait mieux, mais jusqu'ici, elle n'y était pas arrivée. Quelques larmes égarées, telles des averses insignifiantes dans le désert, c'est tout ce qu'elle avait réussi à verser. Bien qu'elle eût ce sentiment effroyable que les choses étaient bien pires que ce qu'elle en savait. « Putain, c'est pas un sentiment !» vociféra d'état avec dédain dans un recoin bien caché, tandis que Susanna regardait défiler les terres perdues noires et rocheuses et les occasionnelles villes ou villages en ruine, abandonnés lorsque le monde avait changé.
T'as une putain d'intuition, ma fille. La seule question à laquelle tu peux pas répondre, c'est de savoir lequel est en train de rendre visite à ton homme dans la clairière en ce moment. Le bon, la butte et le tuant, ou notre jeune maître.
Je vous en prie, non,
murmura-t-elle.
Je vous en prie, aucun des deux, mon Dieu. Je ne peux pas supporter d'en perdre encore un.
Mais Dieu demeura sourd à sa prière. Jack demeura mort. La tour sombre resta debout au bout de Kankwa Norey, projetant son ombre sur 1 million de roses hurlantes. Et à New York, le chaud soleil d'été brilla indifféremment sur les justes et les injustes. Donnez-moi un alléluia, vous voulez bien? Grand merci, Sai. Et maintenant que quelqu'un me balance à tue-tête un bon vieil amen, bombe divine. 2. Madame Tassenbaum gara sa voiture au parking de la 63e rue. Le panneau sur le trottoir montrait un chevalier en armure au volant d'une Cadillac, sa lance saillant vaillamment par la vitre côté conducteur, où elle et David louaient 2 boxes à l'année. Ils avaient un appartement juste à côté, et Irène demanda à Roland s'il voulait y monter faire un brin de toilette. Et même s'il n'avait pas l'air si mal, elle dut bien se l'avouer. Elle lui avait acheté un jean neuf et une chemise blanche à boutons, dont il avait roulé les manches au coude. Elle s'était aussi procuré un peigne et un tube de mousse coiffante fixation forte, tellement forte que la composition moléculaire de ce truc devait plus se rapprocher de la superglue que de la gomina. En coiffant cette touffe rebelle de cheveux poivre et sel en arrière, elle avait révélé les traits séduisants et anguleux d'un croisement intéressant. Celui d'un Quaker et d'un Cherokee, elle aurait dit. Il avait de nouveau glissé le sac d'Oritza sur son épaule. Il y avait aussi glissé son arme, ceinturon enroulé autour du holster. Il l'avait recouvert du t-shirt de la maison de retraite pour éviter les regards inquisiteurs. Roland secoua la tête.
« J'apprécie votre offre, mais je préférerais en finir au plus vite avec ce que j'ai à faire, puis retourner chez moi. »
Il balaya d'un regard triste la foule qui défilait sur les trottoirs.
« Si ce « chez moi » existe.
« Vous pourriez rester un jour ou deux à l'appartement pour vous reposer, »
suggéra-t-elle.
« Je resterai avec vous. Et je te baiserai à t'en faire oublier ton nom si cela te sied, »
se dit-elle, et elle ne put retenir un sourire.
« Je veux dire... « Je sais que vous ne voudrez pas, mais je voulais que vous sachiez que l'offre tient toujours. »
Il hocha la tête.
« Grand merci. Mais il y a une femme qui a besoin que je la rejoigne aussi vite que je le pourrai. »
Il avait l'impression de dire un mensonge, et un mensonge grotesque avec ça. S'il se fondait sur ce qui s'était passé, Susanna Dean avait autant besoin de Roland de Gilead dans sa vie que des babots au berceau de Morora dans leur biberon du soir. Néanmoins, Irène Tassenbaum l'accepta, et une partie d'elle était en fait nerveuse à l'idée de retourner auprès de son mari. Elle l'avait appelé la veille au soir, depuis une cabine située à 2 kilomètres du motel, par mesure de sécurité. Et il semblait qu'elle avait enfin réussi à attirer de nouveau l'attention de David Seymour Tassenbaum. À côté de la rencontre avec Roland, l'attention accordée par David n'était qu'un prix de consolation. Mais c'était mieux que rien, nom d'un chien. Roland Deschênes allait disparaître de sa vie très bientôt, la laissant retrouver toute seule le chemin de la Nouvelle-Angleterre et expliquer comme elle pourrait ce qui lui était arrivé. Une partie d'elle pleurait cette perte toute proche, mais elle avait vécu assez d'aventures au cours des 48 dernières heures pour tenir jusqu'à la fin de ses jours, n'est-ce pas? Et aussi de quoi réfléchir, ça oui. Pour commencer, il semblait que le monde était plus fluctuant qu'elle l'avait jamais imaginé, et la réalité plus vaste.
« D'accord, » dit-elle. « C'est au coin de la 2e avenue et de la 46e rue que vous voulez aller en premier, n'est-ce pas ?»«
Oui. » Susanna n'avait pas eu l'occasion de leur raconter vraiment ses aventures depuis le moment où Mia avait pris en otage leur corps commun. Mais le pistolero savait qu'il y avait un grand immeuble. Ce qu'Eddie, Jake et Susanna appelaient un gratte-ciel, qui se dressait maintenant à l'ancien emplacement du terrain vague, et que la Ted Corporation devait se trouver à l'intérieur.
Est-ce qu'on aura besoin d'un taxi?
Est-ce que votre ami à fourrure peut faire 1 ou 2 kilomètres à patte? « C'est à vous de décider, mais je ne dirai pas non à la perspective de me dégourdir un peu les jambes. »
Roland ne se figurait toujours pas ce que représentait 1 kilomètre, mais il avait très envie de le découvrir, maintenant que la douleur sourde et insupportable dans sa hanche droite avait disparu. C'était Stephen King qui la ressentait à présent, avec celle de ses côtes écrabouillées et de l'éraflure à la tempe droite. Roland ne lui enviait pas ses douleurs, mais au moins elles étaient retournées à leur véritable propriétaire.
« Allons-y, » dit-il.
3. 15 minutes plus tard, il se tenait sur le trottoir opposé à la grosse structure sombre qui se jetait à l'assaut du ciel d'été, essayant d'empêcher sa mâchoire de se déboîter, voire de lui tomber directement sur les genoux. Ce n'était pas la tour sombre. Pas sa tour sombre. Du moins, bien qu'il n'eût pas été surpris d'apprendre qu'il y avait des gens travaillant dans cette tour ciel-là, parmi lesquels des lecteurs des aventures de Roland, qui appelaient exactement ainsi le 2 Hammerschall de Plaza. Mais il ne doutait pas que c'était la représentante de la tour dans le monde clé, au même titre que la rose incarnait un champ entier de roses. Ce champ qu'il avait vu de nombreuses fois en rêve. De là où il était, il entendait les voix chanter, par-dessus la bousculade et le grondement de la circulation. La femme dut l'appeler 3 fois par son prénom, puis finir par le secouer par la manche pour attirer son attention. Lorsqu'il se tourna vers elle, à contre-cœur, il constata que ce n'était pas la tour qu'elle contemplait. Pour sa part, elle avait grandi à 1 heure de Manhattan et les gratte-ciels, c'était la routine pour elle. Mais le petit square de poche, de leur côté de la rue. Elle avait un air totalement réjoui.
Est-ce que ce n'est pas ravissant comme endroit? J'ai dû passer 100 fois au coin de cette rue et je ne l'avais jamais remarqué avant aujourd'hui. Vous voyez la fontaine et la sculpture en forme de tortue?
Ils les voyaient, oui. Et même si Susanna ne leur avait pas raconté cette partie de son histoire, Roland savait qu'elle était venue ici, avec Mia, fille de personne, et qu'elle s'était assise sur le banc le plus proche de la statue avec sa carapace humide. Il la voyait presque de ses yeux.
« J'aimerais entrer, »
dit timidement la femme.
« Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on a le temps ?»«
Oui, » répondit-il en franchissant derrière elle la petite grille en fer forgé.
4. Le petit parc était calme, mais pas totalement silencieux.
« Vous entendez ces gens qui chantent ?»
demanda Madame Tassenbaum presque dans un souffle.
« Une chorale, quelque part, vous pensez ?»«
Vous pouvez parier jusqu'à votre dernier dollar, » dit Roland, pour le regretter immédiatement.
Il avait appris cette expression d'Eddie, et l'entendre lui fit mal. Il se dirigea vers la tortue et mit un genou en terre pour l'examiner de plus près. Un petit éclat manquait au bec, comme une dent cassée. Sur le dos, elle avait une éraflure en forme de point d'interrogation et une inscription d'un rose passé.
« Qu'est-ce que ça dit ? »
demanda la femme.
« Je vois que ça parle d'une tortue, mais je ne déchiffre pas le reste. »«
Vois la tortue, comme elle est ronde. »
Elle n'eut pas besoin de lire.
« Qu'est-ce que ça signifie ? » ?»«
Ce serait trop long à expliquer. »
répondit Roland en se relevant.
« Vous voulez m'attendre ici pendant que je monte ?»
demanda-t-il avec un mouvement de la tête en direction de la tour, avec ses carreaux noirs scintillant au soleil.
« Oui, je veux bien. Je vais m'asseoir sagement sur ce banc au soleil et vous attendre. C'est rafraîchissant. Ça vous paraît complètement fou ?»«
Non. » « Irène, si quelqu'un dont l'allure ne vous inspire pas devait vous adresser la parole, ça me paraît peu probable parce que vous êtes ici en lieu sûr, mais c'est toujours possible. Concentrez-vous aussi fort que vous le pourrez et appelez-moi. »
Les yeux d'Irène s'arrondirent.
« Vous voulez parler de perception extrasensorielle ?»
Il n'avait aucune idée de ce qu'était la perception extrasensorielle, mais il comprit le sens de ce qu'elle disait et acquiesça.
« Vous pourriez entendre ? Vous m'entendriez ? Moi ?»
Il ne pouvait l'affirmer avec certitude. L'immeuble était peut-être équipé de systèmes de brouillage, comme les bonnets de pensée que portaient les Cantois, ce qui rendrait toute communication impossible.
« Peut-être. » Mais comme je viens de le dire, il est peu probable qu'il y ait le moindre problème. C'est un endroit sûr. »
Elle regarda la tortue avec sa carapace miroitant sous les embruns de la fontaine.
« Oui, n'est-ce pas ?»
Elle amorça un sourire qui disparut brutalement.
« Vous allez revenir, dites. Vous ne me laisseriez pas tomber comme ça sans même... »
Elle haussa une épaule, ce qui lui donna soudain l'air très jeune.
Sans même dire au revoir.
Jamais de la vie. Et les affaires que j'ai à régler dans cette tour là-bas ne devraient pas prendre bien longtemps.
En fait, il ne s'agissait pas du tout d'affaires. Sauf si, bien sûr, la personne qui dirigeait maintenant la Tête Corporation avait des comptes à régler avec lui.
Il nous reste un endroit où aller, et c'est là que Othé et moi vous dirons au revoir.
« Ok, »
dit-elle en s'asseyant sur le banc, le bafouilleux à ses pieds. Le bout du banc était mouillé et elle portait un pantalon neuf, acheté dans la même boutique de fortune où elle avait dégoté la chemise et le jean de Roland. Mais ça ne la dérangea pas. Il sécherait vite par un temps aussi chaud et ensoleillé, et elle se rendit compte qu'elle avait envie de rester près de la tortue, pour étudier ses minuscules yeux intemporels, tout en écoutant le doux chant des voix. Elle se dit que ce serait très reposant. Ce n'était pas là un mot qu'elle avait pour coutume d'associer à New York, mais c'était là un endroit très peu New York, avec son atmosphère calme et paisible. Elle se dit qu'elle amènerait peut-être David ici, que s'ils s'asseyaient tous les deux sur ce banc, il écouterait le récit des 3 jours qu'elle venait de vivre sans la prendre pour une folle furieuse. Ou pas tout à fait furieuse. Roland s'éloigna d'une démarche pleine d'aisance. Comme un homme qui pourrait marcher pendant des jours et des semaines sans varier de rythme. «
Je n'aimerais pas la voir à mes trousses, »
se dit-elle, et elle frissonna un peu à cette idée. Il atteignit la petite grille métallique par laquelle il allait rejoindre le trottoir et se retourna vers elle une fois de plus. Il parla d'une voix douce et chantante.
« Vois la tortue comme elle est ronde. Sur son dos repose le monde. Son esprit, quoique lent, est toujours très gentil. Il tient chacun de nous dans ses nombreux replis. » Sur son dos, la vérité va bien accompagnée, même si elle ne s'en trouve pas aidée. La mer et la terre, elle aime également, et même moi, malheureux enfant.
Puis il la laissa sans un regard en arrière, s'éloignant d'un pas net et vif. Assise sur son banc, elle le regarda attendre que le feu passe au signal, passé piéton, agglutiné avec les autres. Puis traverser avec eux, avec sur l'épaule son sac en cuir qui rebondissait légèrement sur sa hanche. Elle le regarda gravir les marches du 2A Marshall de Plaza et disparaître à l'intérieur. Alors elle se laissa aller en arrière, ferma les yeux et écouta les voix chanter. Au bout d'un moment, elle se rendit compte qu'au moins 2 des mots qui constituaient leur chant étaient son propre nom. 5. Il sembla à Roland qu'une multitude de Falken se déversait dans ce bâtiment, mais c'était là la perception d'un homme qui avait passé les dernières années de sa quête dans des lieux quasiment déserts. S'il était venu à 9h moins le quart, quand les gens continuaient d'arriver, plutôt qu'à 11h moins le quart, il aurait été abasourdi par le flot humain. À présent, la plupart de ceux qui travaillaient ici s'étaient déjà installés dans leurs bureaux et leurs cubes et produisaient du papier et des octets de données. Les fenêtres du hall d'entrée étaient en verre transparent, sur au moins 2 étages, peut-être 3. Par conséquent, le hall était baigné de lumière et lorsqu'il pénétra à l'intérieur. Le chagrin qu'il habitait depuis la seconde où il s'était agenouillé aux côtés d'Eddie dans la rue de Pleasantville s'évanouit. À l'intérieur, les voix chantaient plus fort. Pas vraiment une chorale, mais un grand chœur. Et il constata qu'il n'était pas le seul à les entendre. Dans la rue, il avait vu les gens se presser, la tête baissée et un air absent de concentration sur le visage, comme s'il faisait exprès de ne pas voir la beauté délicate et périssable de cette journée qui leur avait été donnée. Alors qu'ici, il ne pouvait pas s'empêcher de ressentir au moins une partie de cette mélodie à laquelle s'accordait avec délice le pistolero et qu'il buvait comme de l'eau dans le désert. Comme en rêve, il glissa sur le sol en marbre rose, dans l'écho du claquement de ses talons et la douce conversation des orizas dans son sac. Il pensa,
« Les gens qui travaillent ici souhaiteraient y vivre. » Ils n'en ont pas forcément pleinement conscience, mais c'est le cas. Les gens qui travaillent ici trouvent des prétextes pour travailler tard, et ils vivront des vies longues et productives.
Au centre de cette grande pièce haute qui résonnait, le luxueux carrelage en marbre cédait la place à un carré de terre humble et sombre. Le périmètre était entouré de cordes de velours rouge vin, mais Roland sut que la présence même de ces cordes était inutile. Personne ne viendrait enfreindre la tranquillité de ce petit jardin. Pas même un cantois désespéré lancé dans une mission suicide, décidé à se faire un nom. C'était une terre sacrée. Il remarqua 3 palmiers nains, plantes qu'il n'avait plus revues depuis son départ de Gilead. Spatifilum, c'est ainsi qu'on appelait cette variété là-bas, si sa mémoire ne le trahissait pas. Mais peut-être avait-il un autre nom dans ce monde-ci. Il y avait aussi d'autres plantes, mais seule une comptait. Au milieu du carré de terre, seule trônait la rose. On ne l'avait pas replantée là. Rolante le vit instantanément. Non, elle se trouvait exactement au même emplacement qu'en 1977, lorsque le décor qui l'entourait n'était encore qu'un terrain vague, jonché de déchets et de briques cassées, affublé d'un panneau qui annonçait l'arrivée prochaine du complexe résidentiel de la baie de la Tortue, que construiraient les entreprises Mills et Sambra Promotion. Cet immeuble, avec ses 100 étages et tout ce qu'il contenait, avait pris la place du complexe et autour de la rose. Et quelles que fussent les affaires qui se concluaient ici, elles étaient très secondaires par rapport à sa vraie nature. Le 2 Hammarskjöld Plaza était un lieu saint. 6. Rolante sentit qu'on lui tapotait l'épaule et fit volte-face si subitement qu'il suscita des regards alarmés. Il était alarmé lui-même. Depuis des années, peut-être depuis les premières années de son adolescence, personne n'avait été assez silencieux pour venir le toucher sans qu'il l'entende. Et sur ce sol en marbre, il aurait assurément dû... La jeune femme, extrêmement belle, qui s'était approchée de lui, fut visiblement surprise par la soudaineté de sa réaction. Mais lorsque les mains du pistolero bondirent pour l'attraper par les épaules, elles se refermèrent sur le vide, produisant un petit claquement qui résonna depuis le plafond, un plafond au moins aussi haut que l'était celui du berceau de Lude. La femme avait de grands yeux verts et prudents. Et Roland aurait pu jurer qu'il n'y avait aucun mal en eux, mais quand même. D'abord se faire surprendre, puis rater son but, comme ça. Il baissa les yeux vers les pieds de la femme et eut une partie au moins de sa réponse. Elle portait des chaussures comme il n'en avait jamais vu, avec de grosses semelles en mousse et ce qui devait être de la toile sur le dessus. Des chaussures qui permettaient de se déplacer aussi silencieusement qu'avec des mocassins sur une surface dure. Quant à cette femme elle-même, il vint à Rolante une étrange et double certitude en la regardant. Premièrement, qu'il avait vu le bateau dans lequel elle était arrivée, comme on disait parfois à Calabrin Sturgis pour décrire une ressemblance familière. Deuxièmement, qu'une société de pistoleros était en train de se constituer dans ce monde clé particulier, et qu'il venait juste de se faire accoster par l'un d'entre eux. Et quel meilleur endroit pour pareil accostage qu'en vue de la rose ?
Je vois votre père dans votre visage, mais ne peux tout à fait le nommer, dit Roland à voix basse. Dites-moi qui il était. Si cela vous sied. »
La femme sourit, et Roland crut presque trouver le nom qu'il cherchait, puis il lui échappa, comme c'était souvent le cas avec ce genre de choses. La mémoire pouvait faire sa timide.
« Vous ne l'avez jamais rencontré. Bien que je puisse comprendre pourquoi vous pensez que si. Je vous expliquerai plus tard, si vous voulez, mais pour l'instant je dois vous accompagner en haut, monsieur Deschaine. » Il y a quelqu'un qui souhaite. »
Pendant une seconde, elle eut l'air d'essayer de se concentrer, comme si elle pensait qu'on lui avait enseigné un certain mot dans le seul but qu'elle soit la risée de tous en l'employant. Puis une fossette se dessina au coin de sa bouche, et ses yeux verts se plissèrent en un regard enchanteur qui avait l'air de dire
« Eh bien, si c'est une blague, allons-y jusqu'au bout. » « Quelqu'un qui souhaite palabrer avec vous, »
finit-elle.
« Très bien. »
Elle lui toucha délicatement l'épaule pour le retenir encore un moment là où il était.
« On m'a demandé de m'assurer que vous liriez bien le panneau dans le jardin du rayon. Vous voulez bien ?»
La réponse de Rolante fut sèche, mais un peu contrite.
«
« Je veux bien si je le peux, » dit-il. « J'ai toujours eu des difficultés avec votre langue écrite, même si les mots semblent sortir assez naturellement quand je me trouve de ce côté-ci. »«
Je pense que vous arriverez à le lire. Tentez le coup, »
suggéra-t-elle. Et elle lui toucha de nouveau l'épaule, le faisant doucement pivoter vers le carré de terre dans le hall. Non pas de la terre apportée dans une brouette par une équipe de zélés jardiniers, mais la terre même de ce lieu. Le sol qu'on avait peut-être labouré, mais pas changé. Il n'eut d'abord pas plus de succès avec les petits cygnes en cuivre dans le jardin qu'avec la plupart de ceux aperçus dans des vitrines ou sur la couverture des magazines. Il était sur le point de le lui dire, de demander à la femme au visage familier de le lui dire lorsque les lettres changèrent, se transformant en grandes lettres de Gilead. Il fut dès lors en mesure de déchiffrer sans aucun problème. Quand il eut fini, les lettres changèrent de nouveau.
Joli tour. Est-ce qu'il a réagi à mes pensées?
Elle sourit. Elle avait les lèvres recouvertes d'une couche de matière rose qui ressemblait à du sucre et opina.
Oui. Si vous étiez juif, le texte serait apparu en hébreu. Si vous étiez russe, ce serait en cyrillique.
Vous dites vrai?
Vrai.
Le hall avait retrouvé son rythme normal. Sauf que, Roland le sentait, le rythme dans ce bâtiment-là devait être bien différent de celui des autres immeubles d'affaires. Les habitants de Tonfoudre passeraient leur vie à souffrir de petits maux tels que furoncle, eczéma et migraine. Et à la fin, ils mourraient. Sans doute, dans leur jeune âge, d'une grosse maladie bien douloureuse, probablement les cancers qui vous rongeaient à toute vitesse et vous brûlaient les nerfs comme un feu de broussailles. Ici, c'était tout le contraire. Santé et harmonie, bonne volonté et générosité. Ces Falkensi n'entendaient pas le chant de la rose, enfin pas exactement, mais ce n'était pas nécessaire. Ils avaient beaucoup de chance. Et d'une certaine manière, chacun d'entre eux en avait conscience, et c'était là leur grande chance. Il les regarda entrer et se diriger vers les boîtes montantes qu'on appelait ascenseurs, d'un pas rapide, balançant leurs sacs et leurs paquets, leurs paquetages et leurs gounas, et pas une trajectoire ne décrivait une ligne droite parfaite depuis les portes. Quelques-uns des visiteurs s'orientaient vers ce qu'elle avait appelé le jardin du rayon. Mais même ceux que leurs pas ne portaient pas là faisaient un léger crochet dans cette direction, comme attirés par un aimant très puissant. Et si quoi que ce soit essayait de faire du mal à la rose, il y avait un vigile montant la garde, assis derrière un petit bureau près des ascenseurs, constata Roland. Mais il était vieux. Et gros. Et ça n'avait pas d'importance. Si qui que ce soit tentait un assaut, tout le monde dans le hall entendrait mentalement un hurlement d'alerte, un hurlement aussi perçant et impératif que ces ultrasons que seuls les chiens perçoivent. Et ils se jetteraient tous sur l'assassin potentiel de la rose. Ils le feraient sans une seconde d'hésitation, ni le moindre souci de leur propre sécurité. La rose avait réussi à se protéger elle-même tant qu'elle poussait au milieu des déchets et des mauvaises herbes du terrain vague, ou du moins à attirer ceux susceptibles de la protéger, et ça n'avait pas changé.
« Monsieur Leschaine, vous êtes prêt à monter à présent ?»«
Si fait, » dit-il. « Menez-moi où vous voudrez. »
7. La familiarité qu'il avait ressentie devant le visage de la jeune femme prit tout son sens lorsqu'ils atteignirent l'ascenseur. C'est peut-être de la voir de profil qui créa un déclic, quelque chose dans la ligne de sa pommette. Il se rappela Eddie, lui racontant sa conversion avec Calvin Tower après que Jack Andolini et George Biondi avaient quitté le restaurant spirituel de Manhattan. Tower lui avait parlé de la famille de son plus vieil ami.
Ils aiment se vanter d'avoir l'enseigne de cabinet d'avocat la plus courte de tout le pays. Elle dit simplement « Dipno ».
« Êtes-vous la fille de Sai Aaron Dipno ?» lui demanda-t-il. « Certainement pas, vous êtes trop jeune. Sa petite fille, peut-être. »
Le sourire de la jeune femme s'évanouit.
« Aaron n'a jamais eu d'enfant, monsieur Deschaine. Je suis la petite fille de son frère aîné, mais mes parents et mon grand-père sont tous morts jeunes. C'est Eri qui m'a élevée, pour ainsi dire. »
« C'est comme ça que vous l'appeliez, Eri ?»
Roland était sous le charme.
« Ça m'a pris enfant et ça nous est resté, voilà tout. »
Elle tendit la main en souriant de nouveau.
« Nancy Dipno, et je suis ravie de vous rencontrer, un peu effrayée aussi, mais ravie. »
Roland lui serra la main, mais d'un geste superficiel, à peine plus qu'un frôlement. Puis, avec infiniment plus de sentiments, car c'était là le rituel avec lequel il avait grandi, celui qu'il comprenait. Il porta le poing à son front et fléchit la jambe.
« Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, Nancy Dipno. »
Son sourire s'élargit subitement, lui illuminant le visage.
« Et le double du compte pour vous, Roland de Gilead, le double du compte pour vous. »
L'ascenseur arriva, ils montèrent dans la cabine et se rendirent au 99e étage.